Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est notre dernier rendez-vous de la semaine, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Céline Leclerc, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Jacques Hubert. Sur qui passer ses nerfs aujourd'hui? Les pauvres, ça ne se fait pas. Les riches, ça ne se fait plus. Les religions et ceux qui les pratiquent, c'est à vos risques et périls. Les étrangers, même à l'extrême droite aujourd'hui, ont fait mine de ne pas y toucher. Restent les bobos. Ah, le beau punching ball que voilà. Les bobos ont cet avantage qu'ils ne viendront jamais se plaindre de s'être trop fait taper dessus. Non pas qu'ils n'existent pas, nous les croisons par poignées douces dans nos vies quotidiennes, mais personne ou presque ne se revendique de cette appartenance à la bourgeoisie bohème. C'est donc tout naturellement que le bobo est devenu un incontournable du discours politico-médiatique, un symptôme des dérives de tous les libéralismes. Libéralisme culturel, puisqu'il se veut à l'avant-garde sur les questions sociétales, ce qu'il fait détester de la droite. Libéralisme économique, puisqu'il participe à la relégation des classes populaires, ce qui lui vaut d'être qualifié de traître par une partie de la gauche. Pourtant, le bourgeois bohème n'a sans doute pas que des défauts. Son utilité ne saurait se résumer à celle de bouc émissaire. Alors, à quoi servent les bobos? C'est notre sujet du jour. Trois invités pour tenter de répondre à cette épineuse question. Thomas Legrand, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, éditorialiste politique à France Inter, on peut vous écouter tous les matins. Vous venez de publier avec Laure Vatrin chez Stock, La République Bobo. Pour discuter avec vous ce soir, Anaïs Collet, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en sociologie à l'Université de Strasbourg. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur la gentrification des pentes de la Croix-Rousse à Lyon et du Bas-Montreuil en région parisienne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la gentrification, on aura l'occasion assez vite de dire de quoi il s'agit. Notre troisième invité, Éric Agricolianski, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine, vous êtes membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Vous avez coordonné aux éditions du Croquant en 2011, Paris en campagne, les élections municipales de 2008, dont deux arrondissements parisiens, le 16e arrondissement bourgeois et le 10e, où vous vivez, je crois, arrondissement bobo. Mais je ne voudrais pas trop en dire sur votre vie privée. Peut-être que j'ai davantage le droit de révéler quelques informations sur celle de Thomas Legrand, puisque dans votre République bobo, Thomas Legrand, vous commencez en fait par observer le bobo en vous regardant dans un miroir. Le bobo, c'est un peu aussi votre autoportrait, puisque vous expliquez que vous habitez une maison de ville d'une petite commune populaire et tranquille de la Seine-Saint-Denis, qui touche Paris quand même, dites-vous. Dans votre maison, il y a une mezzanine qui est faite de poutres métalliques avec des objets de récup. Vos enfants ont des prénoms qui rappellent la Troisième République. Donc vous
prénoms de monuments aux morts.
Ou des prénoms de monuments aux morts, voilà.
Pour les garçons, voilà.
Donc vous assumez totalement votre côté bobo.
J'assume, oui, j'assume le fait d'être bobo. Je fais mon outing dans ce livre et j'essaye de définir ce mot qui est un fourre-tout, qui est un concept assez protéiforme. Et on va en parler avec nos amis sociologues peut-être, mais c'est un mot qu'on entend beaucoup dans le discours médiatique et dans le discours politique. Et c'est un mot assez énervant parce que c'est un mot qui cache beaucoup de choses, qui est utilisé quand on ne veut pas préciser ce qu'on veut dire souvent. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de Ligue nationale de défense des bobos, donc c'est très facile de taper sur les bobos. Et pendant les deux dernières campagnes présidentielles, les bobos ont été des boucs émissaires. On a voulu savoir ce qu'il y avait derrière.
Ah, pour qu'on sache d'où tout le monde parle, je ne sais pas si Éric Agricolianski et Anaïs Collet ont eu le temps de répondre au petit test que vous proposez. Alors bon, c'est assez ludique évidemment, c'est pas très sérieux, mais pour savoir si on fait partie de la bobosphère ou pas.
Le livre est sérieux, mais à la fin, il y a un petit test un peu plus léger.
Voilà, 60 propositions. Moi, j'ai eu 13 réponses qui vont appartenir à la catégorie du working bobo. Ça veut dire que j'ai encore des progrès à faire.
Oui.
C'est pas terrible.
C'est pas mal déjà.
Éric Agricolianski,
oui,
vous, c'était plus...
J'ai arrêté très vite parce que j'avais toutes les réponses.
Ah oui.
Et je crois qu'Anaïs Collet, vous n'avez pas encore eu le temps de
non,
faire ce test.
Non, j'ai pas encore pris connaissance du test, mais j'en suis bien curieuse.
Ce terme de bobo, est-ce que c'est quelque chose qui vous hérisse le poil en tant que sociologue?
Non, ça serait beaucoup dire. Je le trouve intéressant parce que précisément, il reflète un intérêt renouvelé pour des questions concernant un peu la structure sociale, les groupes sociaux, les classes sociales. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Il suscite beaucoup de discussions plutôt intéressantes. Après, son usage est problématique, ou en tout cas doit être regardé avec un peu de distance. Et nous, en sciences sociales, on préfère ne pas l'utiliser ou l'utiliser comme une catégorie à analyser plutôt que comme un analyseur.
Vous préférez le terme de gentrification et de gentrifieur. Alors que ce serait quoi la différence et la définition de ce terme-là ?
Alors, ce n'est pas exactement des synonymes, mais en tout cas, effectivement, moi, mon objet de recherche, c'est la gentrification. Il recoupe assez largement la thématique des bobos, en tout cas depuis que ce terme est arrivé dans les années 2000. Mais la gentrification, c'est un phénomène qui existe depuis les années 60, 70 dans les grandes métropoles occidentales, notamment anglo-saxonnes et également européennes. Et c'est un terme qui désigne une forme d'embourgeoisement qui touche les quartiers populaires plutôt anciens et plutôt centraux des grandes agglomérations. Voilà, donc ensuite, de ce terme anglo-saxon, de ce néologisme anglo-saxon qui date déjà des années 60, on a dérivé le terme de gentrifieur pour parler de ces nouveaux habitants, entre guillemets, s'installant dans ces quartiers et appartenant plutôt aux classes moyennes ou aux classes supérieures.
C'est aussi un terme avec lequel vous êtes un peu plus à l'aise, Eric Agricolianski ?
Non, c'est un terme qui, je dois l'avouer, m'énerve beaucoup en réalité, et en même temps qu'on ne peut pas ne pas utiliser. Hein,
bobo ou gentrifieur ?
Bobo. Mmh. C'est une catégorie du débat public, c'est une catégorie de médiatique aussi, dont on parle beaucoup, qui m'énerve, alors pas simplement pour des raisons scientifiques ou sociologiques, mais aussi politique, on y reviendra un petit peu après. Je pense que c'est un terme qui est assez dangereux politiquement, en tout cas, qu'il faut savoir utiliser avec parcimonie, et qui, en même temps, est une catégorie présente avec laquelle il faut bien travailler d'une certaine façon, quitte à essayer de la déconstruire. Hein, parce que finalement, ce qui est un peu le point de vue des sciences sociales sur cette catégorie, est qu'elle est une catégorie très floue, qui veut tout dire, et puis en même temps, pas grand-chose. Alors c'est peut-être une des raisons de son succès, d'ailleurs. Chacun y met à peu près le sens qui lui plaît, ce qui fait que tout le monde peut l'utiliser sans dire véritablement la même chose, qui crée aussi des effets de dialogue de sourds qui sont parfois un peu stérilisants.
Terme qu'il faudrait utiliser avec parcimonie, ça n'est pas vraiment le cas dans le discours politique.
Je vais encore choquer les belles âmes, hein, s'il y en a quelques-unes dans la salle, les bobos, bouchez-vous les oreilles, parce que je vais faire un constat, si l'insécurité progresse, c'est que l'immigration monte.
Une primaire de bobos, tout simplement parce que c'est une primaire qui a été imaginée uniquement pour les quartiers urbains. C'est un mépris que le PS fait au monde rural.
Ici, on n'a jamais vu en mairie un étranger venir réclamer le droit de vote aux élections. Les étrangers, ils parlent d'emploi, ils parlent de logement, ils parlent de formation. Le droit de vote aux élections, c'est un truc de socialistes ou de bobos parisiens et souvent c'est les mêmes.
La rémunération de ce grand patron est effectivement choquante. Mais ce qui est encore plus choquant, monsieur Hollande, c'est que les actionnaires qui ont décidé de la rémunération de ce grand patron, ce sont vos amis. La gauche caviar, la gauche bobo.
Voilà, quatre utilisations du mot bobo par, dans l'ordre d'apparition, Marine Le Pen, Christian Jacob, Nathalie Kosciusko-Morizet et Nicolas Sarkozy, puisqu'on se pose la question de l'utilité des bobos dans le discours politique Thomas Legrand. Ouais, le bobo, bien. Ça sert d'abord à discréditer l'adversaire.
Voilà, en fait. Ça sert à discréditer l'adversaire. Là, vous avez pris des accusations bobos qui venaient de la droite.
Il y en parce a aussi qu'on n'a pas réussi à en trouver dans les archives. Ça existe, mais on n'a pas réussi à les trouver à gauche.
C'est plus rare. Il y en a plus par écrit, mais c'est plus rare. C'est moins un effet de tribune, effectivement, à gauche. Mais
il y avait Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ce matin, dans les matins de France Culture. On espérait qu'il utilise ce terme de bobo. Ben non, pas venu.
Il y en a plus à l'extrême gauche. Parce que pour la gauche, les bobos sont les incubateurs du libéralisme. Ce sont des traîtres, des sociotraîtres. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que effectivement l'auditoire rigole, vous avez entendu les rires, l'auditoire rigole, donc c'est un mot qui a du sens mais qui n'a pas de définition. C'est quand même embêtant, un mot qui a du sens et pas de définition. Et les sociologues nous disent, monsieur Agricolinski vient de nous le dire, il est gêné avec ça et je le comprends parce que et il dit que c'est une construction médiatique. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous dites, mais c'est une critique qu'on a souvent entendue. On a lu beaucoup de sociologues pour faire ce livre. On en a rencontré quelques-uns. Ils disent que c'est une construction médiatique. Et nous, comme on est journaliste, on a voulu préciser ce mot qu'on utilise, qu'on surutilise. On a voulu le préciser. Je ne sais pas si on y est arrivé. Et on a dû donner une définition qui est un peu sociologie qui pourrait rappeler les axes bourdieusiens, vous savez, le capital économique et le capital culturel, mais on ne prétend pas faire une analyse bourdieusienne. Bourdieu peut dormir tranquille, on ne se prend pas pour des sociologues. Mais disons que c'est une catégorie de la population, pour nous les bobos, pour qui le capital culturel, qui est important, est plus déterminante que le capital économique, qui est très variable, dans les choix de vie, l'endroit, d'abord l'endroit où on vit, les choix du vote, la façon dont on élève ses enfants, les valeurs qui sont positives. Et alors ces valeurs positives sont bien souvent des valeurs qu'on retrouve beaucoup dans les centres-villes, dans les centres urbains habités par des gens qui ont un capital culturel élevé, c'est-à-dire une tolérance à l'homosexualité, une volonté d'égalité des sexes, une volonté de vivre ensemble, comme on dit maintenant, c'est-à-dire un altruisme au moins affiché. Et donc ça crée beaucoup de paradoxes, ça crée beaucoup d'hypocrisie parce que ce sont des de la bien-pensance, comme dit la droite, qui sont difficiles à vivre. Et les bobos sont souvent critiqués pour leur hypocrisie. C'est marrant parce que les bourgeois, tout court, ceux de l'Ouest parisien, ceux des quartiers haussmanniens qui vont à la messe tous les dimanches, s'entendre dire qu'il faut tout partager, qu'il faut tendre la joue gauche et qui reviennent dans leur quartier monochrome et riche, eux ne sont pas contradictoires ni hypocrites. En revanche, le bobo qui vit ses contradictions, lui apparaît et c'est vrai, souvent un peu hypocrite.
Il sert à quoi le bobo dans le discours politique, Éric Agricolianski ?
Alors, le bobo, il est surtout utilisé par la droite. Hein. C'est une catégorie qu'affectionne notamment les leaders du Front National, qui sert à dénoncer ce que serait une sorte d'hypocrisie, de mauvaise foi fondamentale, de catégorie qui serait des bourgeois et qui, en même temps, voteraient à gauche et qui, d'une certaine manière, trahiraient par mauvaise foi leurs intérêts, leur classe, etc. Si on regarde un peu attentivement, et la définition que vous en donnez, il me semble assez satisfaisante. Hein, les bobos, ce qu'on appelle les bobos, en réalité, sont les classes moyennes à fort capital culturel, urbaine. Bon. Ce ne sont pas les bourgeois tels qu'on peut les définir par la prépondérance du patrimoine, du capital économique, etc. etc. Et ce qui insupporte les leaders de la droite, enfin certains en tout cas, hein, qui dénoncent les bobos, c'est cette espèce de compromission avec la mondialisation, mais les immigrés.
Vous n'entendrez plus Nathalie Kosciusko-Morizet parler des bobos.
Là, oui, ça, parce qu'aujourd'hui, si elle veut être élue, peut-être qu'elle va en avoir besoin.
2012 pour Nicolas Sarkozy, maintenant, il faut qu'elle gagne le 12e et le 14e. Donc, elle ne dit plus bobos.
Mais est-ce que ça les insupporte vraiment ? Est-ce que les bobos ne sont pas particulièrement utiles à la droite ? Et vous citiez le Front National, c'est-à-dire, est-ce que ça ne permet pas aussi au FN de dire, on représente, puisque le Parti Social et son gros représentent les bobos, nous, finalement, on représente les classes populaires.
Absolument, absolument. C'est un raccourci rhétorique pour dire cela. C'est-à-dire pour dire ces bourgeois qui votent à gauche ont oublié le peuple. Alors que nous parlons pour le peuple. Alors bon, le peuple vu de Montretout, ça fait quand même aussi un petit peu rire.
Anaïs Collet ?
Oui, et puis j'ajouterais que cet usage permet aussi de définir des contours du peuple qui doivent être aussi interrogés. C'est-à-dire qu'en discréditant, par exemple, le goût pour l'altérité, l'ouverture à la diversité, le droit de vote aux étrangers, enfin un certain nombre de valeurs comme ça qui sont affichées, étiquetées comme de la bien-pensance, de manière implicite, ces hommes politiques de droite dessinent les contours d'un peuple qui serait un peuple qui serait opposé à ces valeurs-là, qui seraient opposées, enfin qui seraient donc déjà pas constituées d'immigrés, ce qui est quand même profondément faux, qui seraient constituées d'hommes blancs, hétérosexuels, habitant le milieu rural ou la grande banlieue, et qui seraient fondamentalement hostiles à la diversité sociale, culturelle, etc. Donc ça permet aussi de définir les contours d'une classe populaire qu'il faut absolument remettre en question, puisque ça ne correspond absolument pas aux réalités sociologiques.
Ouais, enfin, il n'y a peut-être pas que la droite aussi qui est responsable de cette image-là, Thomas Legrand. Vous citez dans votre ouvrage le fameux rapport Terra Nova qui avait fait beaucoup parler, celui d'Olivier Ferrand, où en gros, il expliquait qu'il fallait que le Parti Socialiste s'intéresse peut-être davantage aux questions sociétales, mal aux femmes, aux immigrés, aux jeunes, plutôt qu'aux classes populaires. Il y avait eu ensuite la gauche populaire qui avait dit non, il faut s'inscrire davantage dans un système de lutte des classes. Enfin, la gauche, oui, le PS sont aussi un peu responsables de ça.
Oui, la gauche et le PS parlent très peu des bobos parce que...
Parce qu'ils le sont peut-être.
Parce qu'ils le sont, mais c'est vrai que ce rapport Terra Nova qui avait fait parler beaucoup de lui pendant la campagne, donc conseiller à François Hollande de parler en priorité... voilà, aux minorités ethniques, alors c'était pas dit comme ça, aux classes urbaines éduquées, et ça semblait dessiner le contour d'une sphère bobo qui serait contradictoire avec les classes populaires. C'est très compliqué parce que, et là moi j'ai envie d'interroger nos deux sociologues, la classe populaire aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, qui c'est exactement, voilà, c'est toute une partie de la population qui n'est plus vraiment ouvrière, mais qui vit dans des conditions difficiles, qui ne choisit pas son temps de travail, c'est le temps partiel subi, qui ne choisit pas son lieu d'habitation. Et moi, en décrivant la sphère bobo, je ne nie pas qu'il y ait une classe ouvrière qui puisse même regarder les bobos avec une certaine méfiance et qu'il puisse y avoir un rapport de classe comme ça un peu compliqué. Mais là où notre définition est peut-être un peu compliquée à appréhender pour notamment les sociologues marxistes, il y en a beaucoup parmi ceux qui s'occupent de ceux qui s'intéressent à la gentrification ou à ces choses-là, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on dit que ça n'a pas de rapport avec le capital économique et secondaire, les intérêts de classe entre les bobos, enfin il n'y a pas d'intérêt de classe vous voyez, entre quelqu'un qui serait travailleur social avec une maîtrise de sociologie ou de droit, et ça arrive, ou un postier avec une licence, comme ça arrive dans de très nombreux cas aujourd'hui, et un webmaster qui gagnerait 5 ou 6 ou 7 000 euros par mois, il n'y a pas d'intérêt de classe. Et pourtant, ils se sentiront peut-être bobos tous les deux et se sentiront faire partie de la même catégorie, alors qu'ils ne font pas partie de la même classe.
Alors, profitant justement d'avoir une sociologue sur ce plateau, je ne sais pas si vous êtes une sociologue marxiste, Anaïs Collet, mais en tout cas, est-ce qu'on, pour répondre à la question de Thomas Legrand, est-ce qu'il peut y avoir des intérêts de classe entre voilà, les classes populaires et ceux qu'on appelle ce soir, même si... Hein, on le redit, le terme est un petit peu vague, les bobos.
Alors, des conflits de classe plutôt.
Des conflits, oui. Voilà.
Moi, je pense qu'il y a intérêt des intérêts communs grâce à la mixité. On pourrait revenir après sur la mixité.
Oui, la question du fond de classe est une vieille question politique.
Anaïs Collet.
C'est vrai qu'en sociologie, on tient toujours à considérer les individus et les groupes en regardant à la fois la position objective qu'ils occupent dans l'espace social et les valeurs dont ils sont porteurs. Effectivement, ce groupe de bobos pose évidemment problème de ce point de vue-là parce qu'il rassemble des gens qui occupent des positions extrêmement variées, en tout cas si on s'en tient à l'usage qui en est fait dans les médias.
Qui ne sont pas censés avoir les mêmes intérêts de classe.
Qui ne partagent pas forcément les mêmes intérêts de classe. Pour moi, ça suffit déjà à discréditer ce terme du point de vue des sciences sociales. Maintenant, ce que je trouve peut-être intéressant, c'est de revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur également qui sont du coup ces classes populaires. Les classes populaires sont éminemment diverses aujourd'hui. Et donc, ce qui est problématique, c'est cette polarisation autour du terme bobo entraîne une espèce de dichotomie implicite qui renverrait aussi également à cette rhétorique de la France d'en haut, la France d'en bas, ou de la France des centres et la France des périphéries.
C'est la théorie de Christophe Guillouy.
Voilà, entre autres.
Alors, Christophe Guillouy, géographe, qui a publié ses Fractures françaises il y a déjà 3 ans, je crois, dont on parle encore énormément, voilà, qui a un peu théorisé ce que serait la France périurbaine du petit blanc qui aurait été écarté et des périphéries dans banlieue proche, à la fois justement par les bobos
utilise le terme bobo dans un article de Libération en 2001 où il prévoit, à juste titre, puisque ça va se passer, en tout cas sa prévision, il prévoit que l'enrichissement, l'augmentation du PIB par tête à Paris fera passer la gauche de façon paradoxale.
Oui, alors ça, c'est tout à fait exact. Après, effectivement, cette dichotomie, elle est extrêmement simplificatrice. Et autant les bobos sont divers, autant les classes populaires sont diverses. Et par exemple, dans cette catégorie du périurbain, se trouvent également des... C'est comme d'employer le terme ouvrier. Aujourd'hui, un ouvrier, oui, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre l'ouvrier déqualifié, ou en tout cas dont le diplôme n'est pas reconnu en France, migrant, primo-arrivant, employé dans le bâtiment, et puis l'ouvrier qualifié qui travaille dans la maintenance, dans le secteur du nucléaire, avec un poste fixe, bon, bah, y a absolument très très peu de choses en commun.
Éric Agricoliansky.
Oui, alors bon, c'est une question assez fondamentale des sciences sociales, de savoir ce qui est une classe ou ce qui est un groupe social. Hein, au sens marxiste du terme, c'est le fait de partager des positions similaires, de partager un intérêt de classe et d'en avoir conscience. Hein, d'en avoir conscience. Et du coup, d'être représenté, hein, notamment en politique, par des porte-paroles qui vont faire advenir à la conscience cette communauté d'intérêt.
Et vous diriez alors justement que ça peut aussi permettre l'utilisation effrénée de ce terme de bobo, de masquer ce qu'est la réalité de la lutte des classes.
Alors disons qu'on parle beaucoup moins des ouvriers de la classe ouvrière aujourd'hui, et que de ce fait-là, elle a disparu symboliquement, cette classe ouvrière, alors que les ouvriers, enfin les classes populaires, constituent encore la majeure partie de la population active.
Enfin, tous les partis rêvent de... disent, moi je m'adresse aux classes populaires.
On n'est plus dans un discours de classe, me semble-t-il, ni à droite ni à gauche. On parle aux Français, hein, oui. On ne parle plus aux ouvriers ou aux bourgeois. Ça me semble être quand même une évolution assez importante de ces dernières décennies. Et puis, est-ce que le Parti Socialiste veut continuer, par exemple, à parler au nom des ouvriers? Je ne suis pas sûr. Enfin, c'est une vieille question, hein, qui traverse l'histoire de la représentation des ouvriers depuis la SFIO.
Ils rêvent de pouvoir en parler, mais sauf que...
D'attirer les votes ouvriers, en tout cas.
Oui, d'attirer les votes ouvriers. Mais les solutions qu'ils proposent seraient en contradiction avec le message que voudraient entendre les ouvriers. Et encore une fois, c'est vrai que dire les ouvriers, comme disait Anaïs Collet, rien qu'en le disant, on comprend la complexité de ce mot et la difficulté à l'utiliser de façon rationnelle.
Donc on pourrait dire que les bobos servent aussi à ça, c'est-à-dire finalement à masquer l'idée qu'il y aurait encore une lutte des classes. Alors ils le font sans le faire exprès, bien entendu, mais ça pourrait aussi servir à ça dans le discours politique.
Alors c'est une manière sans doute de simplifier la question de la lutte des classes.
Parce qu'il faut considérer qu'il y a encore une lutte des classes, donc.
Il y a au moins des conflits. Alors non, mais s'il n'y a plus de classe sociale et s'il n'y a plus de représentants de politique de classe sociale, il n'y a plus de lutte des classes. Après, il y a des conflits sociaux, évidemment.
Vous avez vous-même dit que c'est compliqué de dire qui sont les ouvriers. Donc,
Oui, absolument.
Ça ne veut pas dire diversité des ouvriers qu'il n'y a pas de groupes sociaux, voire de classe sociale, et qu'il n'y a plus d'ouvriers.
Quel est l'intérêt de classe commun entre cet ouvrier non qualifié, immigré au travail partiel non choisi, et cet ouvrier de l'industrie nucléaire hyper spécialisée et demandée partout?
Je suis d'accord qu'il y en a assez peu, mais c'est pour ça qu'il faut aller au-delà d'une analyse dichotomique entre, par exemple, prolétaires et bourgeois. Et en allant au-delà, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus de rapports de classe ou de rapports de domination. Il y a des rapports de domination, il y a des rapports de pouvoir, seulement ils se jouent à des échelles assez fines, ils se diffractent dans la société et ils se rejouent sans cesse, en permanence, au travail, dans la ville, dans différentes sphères, dans la politique. Et c'est précisément ça que les sciences sociales doivent regarder de près. Mais il y a des intérêts divergents, il y a des oppositions, il y a des rapports de domination et il faut aller les analyser de près. C'est aussi pour ça que les enquêtes sur la gentrification sont, à mon sens, intéressantes parce qu'elles permettent, à travers l'entrée urbaine, d'aller regarder comment se rejouent ces rapports de domination à une échelle fine et comment ils se transforment aussi au cours du temps. Par exemple, les dominants de 2001 sont les dominés de 2008 dans la commune où j'ai mené mon enquête à Montreuil.
Ça veut dire quoi ça? Attendez, les dominants de 2001 sont les dominés de 2008. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir des populations encore plus...
Voilà, je simplifie. C'est pas eux qui ont fait venir. Ils n'ont jamais invité qui que ce soit par courrier à venir les rejoindre.
Bien sûr.
Non, je fais l'humour, mais ce que je veux dire, c'est que
leur présence, en tout cas, a permis l'arrivée des populations un peu plus aisées.
Leur présence a facilité l'arrivée de populations aisées, mais c'est pas uniquement leur présence qui a fait ça. C'est l'état du marché immobilier parisien, avant tout.
C'est le
manque de régulation du marché immobilier. Il y a beaucoup de causes qui sont entremêlées. Et ce que je veux dire, c'est que ces rapports de pouvoir et de domination se rejouent sans cesse au cours du temps et qu'il faut les regarder à différents moments et dans différents contextes. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a une diversité, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est compliqué, il y a divers groupes, etc., qu'on nie pour autant l'existence de rapports de domination.
Thomas Legron, vous diriez que les bobos, ce sont peut-être d'abord des victimes. C'est-à-dire qu'ils ont été conduits à quitter peut-être les centres-villes, par exemple, de Paris, puisque Maintenant, les bobos, on les trouve beaucoup à la périphérie, en banlieue. Et donc, ils ont été obligés de partir parce que le parc immobilier devenait tellement inaccessible qu'il fallait aller dans des endroits plus accessibles. Ou bien est-ce qu'ils sont un peu aussi responsables de la périurbanisation ? C'est-à-dire, ils renvoient aussi par leur présence massive dans des endroits plutôt populaires à l'origine, à l'extérieur.
Je pense qu'Anaïs Collet, qui a étudié ça plus longtemps et plus précisément et plus scientifiquement que moi, pourra mieux répondre.
Vous êtes modeste, signe de boboitude.
Sur la gentrification. Mais la question qu'on s'est posée, c'est vrai qu'en lisant tous les livres sur la gentrification, on a souvent l'impression que c'est un rapport de classe, un rapport de force qui a été en faveur des bobos, et c'est-à-dire que des gentrifieurs, la classe populaire est partie et les bobos ont capté le parc privé social. Voilà. Nous, ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que l'industrie, par exemple, l'industrie parisienne, la PME parisienne artisanale, les miroitiers, toute cette industrie qu'il y avait jusque dans les années 80 a disparu. Elle a disparu parce que, pour des raisons économiques qu'on connaît tous, la mondialisation. Et tous ces arrière-cours, dans le 10e, dans le 3e, sont maintenant remplis de graphistes, de traducteurs, de webmasters. Et c'est une industrie qui en a remplacé une autre, avec ses habitants. Il y a une autre population, aussi une population immigrée, qui est venue là. C'est une autre partie de la classe populaire. Et il y a maintenant dans ces quartiers-là, alors je ne parle pas des quartiers totalement gentrifiés qui sont devenus des quartiers bourgeois à code bobo, le centre de Paris, mais disons...
Le Marais, pour...
Alors, oui, mais disons le 10e, le 19e, le 20e, le 18e et la première couronne. Là, il y a une mixité qui est faite par une gentrification bloquée par le taux de logements sociaux incompressible, et bloquée aussi parce que la crise, parce que les bobos aussi représentent des métiers qui se sont appauvris depuis 2008. Et donc je me suis un peu éloigné de votre question, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément des bobos qui seraient venus chasser des classes populaires, c'est plutôt des bobos ou des gentrifieurs qui sont venus remplir des vides. Ça, c'est pour les dernières années. C'est pas ce que décrivent les sociologues anglo-saxons, par exemple pour Londres ou pour le sud de New York, où c'était un autre phénomène aussi. Mais voilà, c'est un processus intéressant à étudier.
Les bobos, ils viennent aussi dans des quartiers parce que ils disent vouloir faire de la mixité sociale. Encore que cette démarche-là peut aussi être remise en cause. Je voudrais citer alors une de vos collègues, elle est géographe, c'est Anne Clerval, qui a écrit « La découverte Paris sans le peuple ». Elle dit alors « Les gentrifieurs tiennent un discours très valorisant sur la mixité sociale, mais c'est souvent un discours après coup. Ils ne s'installent dans ces quartiers que sous la contrainte du marché immobilier. Ils ne choisissent pas d'habiter dans un quartier mixte, mais d'habiter coûte que coûte. »
Ils refusent pas d'habiter dans les quartiers où il y a les étrangers. Et ils y vont, ils sont à l'aise avec la mondialisation, ils sont connectés, ils aiment bien la ville-monde. Alors après, ils sont un peu...
Il y a bien la ville-monde, sauf que la ville-monde, elle ne leur répond pas toujours. Vous évoquez notamment le cas d'une réunion de quartier où il y a des flyers qui sont distribués dans les HLM.
Il n'y a personne qui vient. Je raconte ça, à Bagnolet, les bobos ont organisé un déjeuner de quartier et ils ont fait 1500 flyers et ils l'ont mis dans les cités en espérant que tout le monde vienne. Personne n'est venu. Et en même temps, ces mêmes bobos, ils ont fait des jardins partagés. Et là, il y a les mamas qui viennent, il y a une vraie rencontre qui se fait. C'est ce que Jacques Lévy, un autre sociologue ou un géographe, qui appelle le lien faible. Ils ne vivent pas ensemble, ils vivent à côté, ils se connaissent. C'est pas le retrait résidentiel non plus. Enfin bon, voilà.
Alors laissons parler un peu l'académie à présent, Anaïs Collet, Eric Grigolianski. Les bobos, est-ce qu'ils sont utiles en termes de mixité sociale ?
Non, sur les raisons qui amènent à cette mixité sociale, il y a évidemment des raisons économiques qui font que le prix du mètre carré était, en tout cas il y a 10 ans, moins cher dans le 10e, dans le 18e que dans le 16e ou dans le 7e. Il est toujours en grande partie.
On parle des arrondissements de Paris, puisque c'est vrai que quand on parle de bobos, arrondissements parisiens, on parle essentiellement de Paris.
Ah non, dans toutes les villes, toutes les grandes villes de France et d'Europe en tout cas. Oui.
On pourrait également en parler pour certaines grandes villes françaises. Bon, il y a cette dimension-là, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi comprendre qu'il y a des choix, hein, d'accepter d'aller vivre dans les quartiers qui sont mixés socialement, dans lesquels il y a de l'immigration et que ne font pas toutes les familles qui ne peuvent plus, peuvent pas se loger dans les quartiers bourgeois, hein, et qui partent ailleurs, loin, en province ou en très lointaine banlieue.
Ouais, enfin, des qui... bobos à la Courneuve, vous en verrez assez peu, par
non,
exemple.
Non, non, mais des bobos dans
des
bobos
villes dans le périurbain où c'est pas cher.
Périurbain, oui. Oui, ou dans des villes moyennes qui sont à proximité de Paris où on met une heure de train pour... Oui, on en voit. Donc c'est aussi une question de valeur. Alors après, est-ce que ça produit de la vraie mixité? Alors là, c'est une question. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a de la vraie mixité, hein, dans la ville? Est-ce qu'on vit avec son voisin lorsqu'il n'appartient à la même, à pas à la même catégorie sociale que vous? Évidemment, ça pose toujours des problèmes. Et des problèmes qui ne sont pas propres aux bobos, hein, qui sont propres, on les retrouverait dans les beaux immeubles du 16e arrondissement entre les chambres de bonne et les premiers étages.
Voilà. Anaïs Coll, est-ce que ça produit de la vraie mixité? Et est-ce que, si oui, est-ce que ça produit de la vraie mixité durable?
Mais je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire par vraie mixité, en fait. C'est ça,
vraie
qui
mixité,
pose problème.
C'est-à-dire que ce ne soit pas seulement une mixité géographique où on vit à côté des autres, mais sans forcément partager des moments de vie, parce que l'idée, elle est aussi là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste d'être au même endroit, c'est de vivre ensemble, puisque c'est aussi là une notion
très à la mode. Oui, mais
enfin,
je ne vois toujours pas très bien à quoi on fait référence. C'est-à-dire que cette vraie mixité, c'est quoi? C'est un mythe, en fait. Enfin,
C'est un mythe qui est porté aussi dans un discours politique.
Oui, bien sûr, c'est une catégorie politique qui est utilisée dans les politiques publiques pour promouvoir certaines politiques de peuplement. Bon, qu'est-ce qu'on attend en fait? On attend que les habitants de classe moyenne qui se sont installés dans le Bas-Montreuil deviennent copains avec les nounous de leurs enfants.
Non, non.
Je veux dire, ils sont absolument conscients les uns comme les autres de leurs différences sociales. Ils n'ont pas forcément envie de partager le goûter, ni les uns ni les autres. La nounou n'a pas forcément non plus envie de passer ses soirées avec les cadres de la pub ou avec les chefs opérateurs
de
télévision.
C'est exactement ce que je racontais sur les repas.
J'en sais rien. Il faudrait aller voir de plus près. Mais ce que je veux dire, c'est que ce discours obsédant sur la mixité, à un moment donné, il faut se demander qu'est-ce que ça recouvre. Donc,
mais ce discours, il est porté par ces gens qui voudraient aller vers
souvent
cette
société-là. Alors, moi, je suis désolée, mais je vais m'appuyer juste sur mon enquête de terrain, parce que j'ai du mal à parler comme ça, en général, des bobos, parce que je ne sais toujours pas de qui on parle. Alors, à partir d'une enquête de terrain menée dans cette commune de Montreuil, et à partir d'un certain nombre d'entretiens, j'ai pu analyser effectivement les choix résidentiels de ces ménages, et ces choix résidentiels sont des choix résidentiels qui sont faits sous la contrainte économique. C'est quand même, on a dit tout à l'heure, le capital économique est secondaire. Je ne suis pas complètement d'accord. Ces gens ne vivent pas dans une vie dématérialisée. Ils ont aussi besoin d'espèces sonnantes et trébuchantes pour payer leur loyer. Donc le choix résidentiel est fait d'abord sous la contrainte économique. Il se fait également... Il y a quand même un arbitrage. Donc cet arbitrage se fait en fonction d'un certain nombre de goûts et de valeurs. On sait aussi, en sociologie, que les goûts sont en partie de nécessité faite vertu. Hein. Bon, tout ça est un peu un cercle vicieux, mais se nourrissent aussi de la position qu'on occupe, de la position objective qu'on occupe, et de ce qu'on peut objectivement obtenir. Et enfin, les choix résidentiels et ces goûts résidentiels se sont aussi façonnés par des trajectoires. Ça, c'est quelque chose qu'on omet très souvent. Les bobos viennent pas de nulle part, ou en tout cas, les gens très fiers ne viennent pas de nulle part. Certains sont d'origine populaire et peuvent se sentir beaucoup plus à l'aise dans une commune de banlieue parisienne que dans un arrondissement UP comme le 6e arrondissement, par exemple. Toujours pour reprendre le cas parisien. Voilà, donc ça, c'est un ensemble de facteurs qu'il faut regarder. Ensuite, sur cette question de la mixité, j'en ai pas rencontré tant que ça qui m'ont dit je suis venue à Montreuil parce que j'adore les pauvres ou parce que j'adore les Africains ou parce que c'est pas vrai.
Non,
ils ont dit
sûr,
à choisir entre un environnement de village périurbain de seconde couronne et le quartier du bas Montreuil pour des prix immobiliers relativement équivalents. J'ai préféré Montreuil parce que d'abord c'est plus près de mon emploi, parce que les emplois occupés par ces personnes sont très concentrés dans la capitale, parce que ensuite ça ne me fait pas peur cette diversité. Alors, personne ne m'a dit pour autant, j'ai très envie qu'on soit copains et qu'on élève nos enfants tous ensemble. C'est
Thomas Legrand, vous en avez rencontré
ces
bobos-là qui tiennent ce discours.
Ça ne me fait pas peur, cette diversité, c'est déjà dans notre société, malheureusement, énorme. C'est ce que, encore une fois, Jacques Lévy appelle le lien faible. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Et...
C'est pour ça que je préfère en fait moi parler de cohabitation que de mixité.
Si vous voulez. Mais la mixité, la mixité, c'est peut-être un terme trompeur, parce que la mixité, c'est pas vivre ensemble, chacun. Ça se passe quand même pas mal dans les écoles. Alors dans les écoles s'il n'y a pas trop de contournement de carte scolaire. Mais
à partir du collège, ça devient beaucoup plus compliqué.
À partir du collège, ça devient plus compliqué, c'est vrai. Ça devient plus compliqué pour des tas de raisons. On pourrait faire une autre émission là-dessus. Mais le fait que dans une même commune, dans un même quartier, on puisse trouver des gens économiquement, socialement, culturellement différents et qui donc au moins se reconnaissent, se connaissent, s'apprécient, scolarisent leurs enfants au maximum ensemble, font des activités ensemble, c'est déjà quelque chose d'assez important. À mon sens, rien que pour la gestion des finances publiques, par exemple, d'avoir aussi des gens qui puissent payer des impôts. La pression que font les bobos, qu'exercent les bobos, par exemple, pour mieux aménager l'espace public, sert à tout le monde. Alors, quelquefois, les bobos réclament que tel endroit devienne une salle de danse parce qu'ils veulent une salle de danse. Alors, le maire du coin dit, mais vous êtes gentils, les bobos, mais moi, j'ai encore 250 familles à loger. Donc, les bobos ont des prétentions un petit peu qu'il faut recadrer souvent. Mais il y a comme ça un mélange qui me paraît positif. Souvent, les sociologues qu'on a rencontrés commencent par nier le fait que la mixité existe. Quand elle existe, nier que ça puisse avoir des aspects positifs. Et quand ça a des aspects positifs, en fait, c'est parce qu'on est les seuls à en profiter.
Anaïs Collet ?
Non, alors moi je compléterais mon discours en ajoutant que d'abord on ne peut pas nier que la mixité existe si on la renvoie à des critères qui permettent de l'objectiver. C'est-à-dire de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle de cohabitation ? Là on est sur les pratiques. Est-ce qu'on parle de diversité de population ? Là à ce moment-là, on regarde des statistiques et on regarde quels sont les groupes sociaux qui coexistent dans un espace. Bon voilà, il y a des C'est manières ça. D'objectiver, Bien de sûr, savoir oui. de quoi on parle. Ensuite, pour ce qui est de ces pratiques de cohabitation, effectivement, le deuxième temps de la réflexion, c'est de regarder comment ces cohabitations se passent. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'elles ne se passent pas toujours d'une manière neutre, enfin même assez rarement de manière neutre, puisque chacun arrive avec ses intérêts et ses valeurs, hein, et que c'est là qu'on retrouve nos histoires de rapports de domination, de rapports de classe, ou de rapports de pouvoir.
C'est toujours en termes de domination, d'intérêts et de valeurs, et il peut y avoir un intérêt pour l'autre.
Absolument. Il peut y avoir également un intérêt pour l'autre. C'est... Absolument. Mais cet intérêt pour l'autre est une valeur. Ça fait partie des valeurs de ce groupe social. Là, je m'appuierais sur l'enquête menée par une collègue, Sylvie Tissot, dans un quartier américain de Boston, dans un quartier de Boston, qui montre que ce goût pour la diversité est aussi un marqueur de l'identité de ce groupe social, mais qu'il s'accompagne de formes d'encadrement de cette diversité et de maîtrise des formes de cette diversité. Donc, le goût pour les autres s'accompagne aussi.
Le travail de Sylvie Tissot aux États-Unis, ouais. qui est une société qui est basée sur les communautés, le communautarisme, et donc sur des villes patchwork. Et c'est pas tout à fait pareil. Sylvie Tissot dit autre chose sur d'autres.
La différence avec les villes françaises, ça sera peut-être que le pouvoir politique ici a peut-être encore un peu de marge de manœuvre pour intervenir dans ces rapports de cohabitation.
Un goût pour la diversité. Bobo qui nous écoutait, peut-être vous reconnaissez-vous dans le portrait que nous essayons de brosser ce soir. Tiens, écoutons justement des bobos.
Quand on est à gauche, on est généreux, on est soucieux des pauvres, tu vois, on aide les vieilles dames à traverser, alors que quand on est à droite, on est motivé par le profit, on est pour l'esprit d'entreprise.
Donc, vous êtes de droite.
Mais tu peux pas dire ça, mon chéri. Dès qu'on peut, on donne de l'argent aux Emmaüs, aux Restos du Cœur, à Médecins du Monde, enfin on n'arrête pas.
Oui, non, mais ça c'est ta faute, à force de dire qu'il faut que je monte une boîte qui rapporte du fric, et ben voilà.
Ah oui, mais tu sais, il n'y a pas de honte ni à gagner de l'argent, ni à vouloir en gagner. Simplement, il faut garder ses valeurs. Voilà. Et avec papa, nous, on a plutôt des valeurs de gauche.
Mmh. Mmh, c'est pour ça, alors.
Quoi ?
Qu'elle ne marche pas, ta boîte.
Voilà, extrait de l'excellente série de France 2, Fais pas ci, fais pas ça, avec la famille Boulet, qui est une famille qui justement représente les bobos avec toutes les contradictions et la difficulté parfois aussi à assumer son positionnement. C'est vrai qu'on l'a pas dit au début de l'émission, Eric Grigolianski, mais le bobo, il est forcément le gentrifieur, il est forcément de gauche.
Alors oui, c'est une caractéristique qui fait partie de son identité, en quelque sorte, quand même pas besoin d'énoncer tant elle va de soi. Bon, qui n'est pas très surprenante, hein. On sait depuis les années 70 que les classes moyennes à fort capital culturel votent assez massivement pour la gauche et une fraction de la gauche qui est le Parti Socialiste. Alors peut-être à la place des ouvriers, progressivement, on ne va pas refaire le débat de tout à l'heure, mais il y a cette identité-là qui, par ailleurs, d'une certaine manière, peut aussi consolider l'identité sociale de ces classes moyennes à capital intellectuel, hein, de se reconnaître dans un certain nombre de valeurs alternatives liées à la défense de l'environnement, à la promotion de la protection du cadre de vie, de valeurs qui ont trait à la sexualité, à la liberté, à l'autonomie, etc. etc. Qui ne les concernent pas que eux, hein, comme on aurait tendance à le penser un peu rapidement, mais c'est vrai qu'ils font partie aussi de leur carte d'identité. Hein.
Et bien ce sera notre conclusion, non pas définitive, c'est impossible sur les bobos, mais provisoire. La République Bobo chez Stock, signé Laure Vatrin et Thomas Legrand, c'est donc à lire. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Anaïs Collet et Eric Agricolianski d'avoir participé à cette discussion. On termine sur notre générique Wax Taylor, c'est un DJ français. Ça fait sans doute partie de la panoplie
très bobo.
Musicale Bobo. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Vos commentaires sur notre site franceculture.fr, la page du Gramou, de la réécoute pendant 1000 jours. Les téléchargements pendant un an. On se retrouve lundi à partir de 18h20 pour poser la question suivante. Qui a le plus besoin de l'Ukraine ? Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir.